Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse, la tribune et le droit. Au programme, je me fous de ma santé. La réconciliation, une responsabilité collective. COP 15 et l'absurdité du régime planétaire. Et avertissement de larmes abondantes. Bonne écoute!
Je me fous de ma santé. Un texte d'opinion de Sébastien Perron, paru le 26 décembre 2022 dans la presse. Sébastien Perron est spécialiste en médecine interne et auteur du livre « Ton médecin ne te guérira pas. Comment vivre longtemps sans maladie chronique, sans médicaments et bien dans ta peau. » Je me fous de ma santé. Vous ne diriez jamais ça. Peut-être. Mais vos gestes vous trahissent. Chaque jour, en tant que médecin, je rencontre des personnes qui aimeraient revenir 5, 10 ou 20 ans en arrière pour faire des choix différents. Aux prises avec un cancer du poumon généralisé ou paralysé à la suite d'un AVC, elles n'ont maintenant plus cette possibilité de tout effacer et de repartir à zéro. On a juste une vie à vivre, c'est vrai, mais on a aussi un seul corps. Ce corps, ce n'est pas une voiture qu'on peut remplacer après quelques années ou lorsque les défaillances commencent à s'accumuler. En plus, les options de réparation sont limitées et il n'existe pas de pièces de rechange. Contrairement à ce qu'on pense, les médecins ne peuvent pas guérir une grande partie des maladies chroniques. Diabète, insuffisance rénale, ostéoporose, maladies cardiaques. Quand ils posent le diagnostic, la plupart du temps, il n'est plus possible de faire marche arrière. La maladie est là pour de bon, tout comme les traitements et médicaments prescrits pour la soigner, qui ne font que ralentir son évolution. La seule façon de ne pas être malade, c'est de ne pas le devenir. Les moyens pour rester en santé ne sont pas compliqués, sinon jamais notre espèce n'aurait pu survivre sur Terre. Il n'est pas nécessaire de boire des smoothies verts et de courir des demi-marathons. Le corps exige peu de soins. Il demande simplement à être nourri avec des aliments sains et en quantité raisonnable, à bouger, peu importe la manière, à dormir et à éviter d'être exposé à des substances qui lui sont nocives. Or, la moitié des calories que nous ingérons proviennent de produits transformés en usine et systématiquement trop riches en sucre, en gras et en sel. Notre consommation moyenne annuelle en sucre a bondi de 5 à 40 kg par habitant en un siècle. Nous sommes désormais assis non seulement pour nous reposer et manger, mais aussi pour travailler, nous divertir et même nous déplacer. Les conséquences sont inévitables. C'est la première fois en 200 ans que les enfants risquent de vivre moins vieux que leurs parents. Et ce n'est pas pour rien. Nous n'avons jamais été en si piètre condition physique. Les maladies chroniques sont en forte progression et apparaissent chez des gens de plus en plus jeunes. Pourtant, la majorité des maladies chroniques dont nous souffrons peuvent être en grande partie prévenues par un mode de vie sain. C'est le cas, entre autres, de 80% des maladies cardiaques, des AVC et des cas de diabète, ainsi que 40% des cancers. On a tendance à banaliser ces pathologies, alors que 2 décès prématurés sur 3 sont dus à un cancer ou à une maladie cardiovasculaire. Adopter un mode de vie sain et compatible avec les besoins du corps représente le seul moyen réaliste et durable de conserver la santé. À l'heure où notre réseau de la santé peine à suffire à la demande toujours croissante, la prise de conscience et les actions doivent être à la fois individuelles et collectives. Il faut cesser d'agir uniquement en aval de la maladie et diriger plus d'efforts en amont. Le ministère de la Santé doit être un réel promoteur du mieux-être physique et mental, et non simplement une assurance maladie. prenons soin de nous pour vrai. C'était « Je me fous de ma santé », un texte d'opinion de Sébastien Perron, paru le 26 décembre 2022 dans la presse. La réconciliation, une responsabilité collective. Une chronique de Vicky Mayham, parue le 19 décembre 2022 dans La Tribune. J'assistais à une conférence organisée par la Fédération canadienne des municipalités lorsque j'ai entendu pour la première fois, dans un premier temps, « J'aimerais reconnaître que nous sommes actuellement sur le territoire non cédé du peuple autochtone suivant. » Je me rappelle m'être tourné vers mon collègue, des points d'interrogation dans les yeux, et d'avoir été soulagé de constater que lui aussi se posait les mêmes questions. D'où venait cet ajout dans le protocole? Quelles sont les occasions où nous devons le faire? Et pour ma part, comment être certaine de le faire comme il faut? Simplement prononcer correctement le nom de certains peuples autochtones est un défi pour moi. Je ne voudrais surtout pas manquer de respect. Quelques années se sont écoulées depuis cette conférence. Par la suite, j'ai eu la chance d'assister à deux rencontres importantes sur la réconciliation avec les peuples autochtones et le monde municipal. Lors de la première rencontre, à Montréal, j'ai été impressionné par certains gestes concrets et symboliques. J'assistais, entre autres, au dévoilement du nouveau drapeau de la ville de Montréal avec un ajout important à ses armoiries. En 2017, la ville de Montréal a redessiné son drapeau et ses armoiries pour y introduire en son centre un pin blanc. Le pin blanc est le symbole des peuples autochtones. Il représente la paix, l'harmonie et la concorde. De retour chez moi, avec en main une copie de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007, je me suis empressé de proposer au Conseil municipal l'adoption d'une résolution d'appui à cette déclaration. La ville de Magog a été parmi les premières municipalités au Québec à adopter cette résolution en 2018. Les municipalités voisines de communautés autochtones se sentant davantage interpellées. Ce geste symbolique est très important, mais nettement insuffisant. C'est un premier pas dans la bonne direction. Je cherchais donc une façon d'en faire plus. Au même moment, nous annoncions la découverte d'artefacts de 3000 à 4000 ans sur le terrain d'une maison patrimoniale, la maison Mary à Magog, donc de l'époque où le territoire était habité par les Abénakis. J'ai alors décidé d'inviter des représentants de la communauté Abénaki à une cérémonie privée à la maison Mary pour reconnaître que ce territoire n'a pas toujours été nôtre et avoir une certaine bénédiction de ce que nous allions faire de ces lieux. Ensuite, lors de l'ouverture au public de la maison Mary, nous avons également eu le privilège et l'honneur d'accueillir des représentants du Grand Conseil de la Nation Wabanaki qui ont pris part à la célébration et l'inauguration. Aujourd'hui, la maison Mary accueille une exposition temporaire intitulée Endakina en collaboration avec le Musée des Abénaki et le Grand Conseil de la Nation Wabanaki. L'exposition permet de découvrir l'univers des Abénakis, leurs traditions et leur mode de vie. Située en plein cœur du Endakina, qui signifie « notre territoire » en langue abénakise, les cantons de l'Est sont habités depuis des milliers d'années par les Premières Nations. Je vous invite à découvrir cette exposition. Un autre pas dans la bonne direction. Toutefois, en tant que décideur, la reconnaissance des droits de peuples autochtones, c'est un peu comme l'analyse différenciée selon le sexe, ADS+, ce n'est pas un réflexe naturel. S'il n'y a rien pour nous le rappeler, nous prendrons des décisions dans le feu de l'action sans trop y réfléchir. Parfois, des événements dans l'actualité nous rappellent l'importance de cette démarche de réconciliation et donnent naissance à des initiatives extraordinaires comme la trousse éducative « Chaque enfant compte » du Centre national pour la vérité et la réconciliation. Je porte d'ailleurs fièrement mon chandail orange en soutien lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, mais c'est encore si peu. Si nous sommes sincères dans notre démarche, nous devons collectivement être cohérents et conséquents. Nos différents ordres de gouvernement doivent mesurer l'impact de toutes leurs décisions sur les peuples autochtones ainsi que cette démarche de réconciliation. Reconnaître les fautes du passé, c'est une chose, mais travailler sur un avenir meilleur en est une autre. L'exemple d'une récente décision qui a un impact négatif sur les peuples autochtones est l'adoption de la loi 96. Une jeune femme rencontrée à Stanstead, qui organisait des activités de sensibilisation dans le cadre de la Journée internationale, m'a fait comprendre l'impact négatif de cette loi sur le cheminement scolaire des jeunes autochtones. Les Premières Nations, craignant les effets dévastateurs et l'exode de leurs étudiants, ont demandé d'être exemptés du projet de loi 96 sur la protection de la langue française. Une demande qui n'a pas eu d'écho auprès du gouvernement Legault. Cela dit, soustraire les peuples autochtones aurait été une solution pour réparer l'erreur de ne pas avoir remédié à cette injustice lors de l'étude du projet de loi. L'erreur de ne pas s'assurer, lors de l'adoption du projet de loi, que nous sommes cohérents et conséquents dans notre démarche de réconciliation. Ne devrions-nous pas y réfléchir en amont? Autre exemple d'actualité. La demande au gouvernement fédéral et provincial d'adopter le « principe de Joyce ». À la suite du décès de Joyce Echaquan, survenu dans des circonstances abjectes en septembre 2020, ce mouvement a pris forme. C'est un principe qui vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Il me semble que cela devrait aller de soi et qu'il ne devrait pas y avoir de lutte pour l'adoption de ce principe. C'était la réconciliation, une responsabilité collective, une chronique de Vicky Méham, parue le 19 décembre 2022 dans La Tribune. COP 15 et l'absurdité du régime planétaire. Un texte d'opinion du Dr Sylvain Charlebois, paru le 14 décembre 2022 dans La Tribune. Le Dr Charlebois est professeur titulaire, directeur principal au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. La COP 15 sur la biodiversité réunit des milliers de délégués à Montréal pour aborder les enjeux critiques qui menacent notre planète. En ce qui concerne les systèmes alimentaires, les délégués discutent de l'agroécologie, de l'intensification des systèmes alimentaires et de la prise en compte de la pêche dans la sécurité alimentaire. L'alimentation et la surconsommation constituent aussi un problème qui attire l'attention de certaines personnes. La biodiversité et l'alimentation vont de pair, bien sûr. Plusieurs pensent que la principale cause de perte de biodiversité sur Terre proviendrait des systèmes alimentaires et qu'une pression importante provenant de nos régimes alimentaires s'exerce sur notre biodiversité. La COP 15 se penche donc sur les diètes alimentaires et la surconsommation. La motion « Diète et surconsommation » qui implique en réalité la réduction de la consommation de protéines animales, se voit soutenue par l'Union européenne, mais combattue par le Paraguay, l'Argentine et le Canada. La motion elle-même semble largement inspirée du régime Eat Lancet, dont la moitié d'une assiette se compose de fruits et légumes et l'autre moitié de grains entiers, d'huile végétale, insaturée et de protéines d'origine végétale. Les protéines animales, y compris les produits laitiers et les œufs, représenteraient environ 10 % de l'alimentation. La contribution de notre industrie de la viande au PIB dépasse largement les 40 milliards de dollars. Plus important encore, la contribution de notre industrie laitière à notre économie dépasse les 20 milliards de dollars par an et repose sur un système de quotas sanctionné par le gouvernement pour sa protection. Même chose pour la volaille et les œufs. Ce régime a été incroyablement protégé par toutes les allégeances politiques à Ottawa au cours des 50 dernières années. Pas étonnant que le Canada s'oppose à la motion et très peu croient que notre modèle pourrait changer de sitôt. Mais, bien sûr, on ne sait jamais avec Ottawa ces jours-ci. Plus de 35 % de la diète alimentaire canadienne actuelle comprend une certaine forme de protéines animales. Le régime proposé à la COP15 ne consacre que 10 % aux protéines animales. Cette motion à elle seule suggère que la COP15 est imprégnée par des opinions idéalistes et extrémistes et que nos systèmes alimentaires devraient s'en inspirer pour y adhérer. Et selon la couverture médiatique de la conférence, on laisse peu de place au débat. Des groupes environnementaux extrémistes comme Vigilance OGM et CBAN, qui ne représentent personne, ont affirmé que les groupes de pression représentant les géants des semences, des produits chimiques et des engrais n'ont pas leur place à la COP15. Ils se demandent pourquoi certains d'entre eux ont été accrédités en premier lieu. Ces groupes écologistes extrémistes croient qu'ils possèdent littéralement la voie morale vers une planète plus verte et que d'autres groupes ne devraient avoir aucune influence. Leur conviction sous-entend que des entreprises comme Bayer, Corteva, Syngenta, ChemChina, Sinagri et Solio devraient être réduites au silence et complètement exclues de la COP15. L'objectif ultime de ces groupes idéalistes souhaite que le monde entier devienne bio, ce qui ne serait ni durable ni souhaitable. De plus, laisser des écologistes extrémistes dicter la conduite et la vision des groupes qui ont une optique différente de l'agriculture est inacceptable. D'ailleurs, les entreprises d'intrants prônent aussi les notions écologistes, les producteurs agricoles également. Certes, ils ont une vision très différente de l'agriculture, mais néanmoins tout aussi valable. Les entreprises d'intrants représentées par des groupes comme CropLife ont des solutions durables et ont mené des recherches de grande valeur qui méritent d'être partagées. Les technologies développées par certaines entreprises rendent nos aliments plus abordables et la tendance se poursuit pour améliorer l'abordabilité alimentaire. L'année 2022 a sans aucun doute rendu difficile les visites à l'épicerie pour plusieurs d'entre nous. Mais sans le travail qui se fait actuellement en agriculture, soutenu par des joueurs importants, notre tempête inflationniste aurait pu être pire, bien pire. L'agriculture ne consiste pas à adopter un seul modèle plutôt qu'un autre. Les produits biologiques sont merveilleux, mais la capacité de production reste limitée. Les hommes et les femmes qui travaillent dans l'agriculture jouent d'astuces, se soucient des affaires et veulent faire une différence. Ils sont également extrêmement conscients des défis climatiques qui les attendent. Nous devons tout simplement leur faire confiance. Nous devons également écouter ceux qui permettent à nos agriculteurs d'être les meilleurs intendants de l'environnement possible. Au final, cela reste une question de choix et de démocratie alimentaire. Pierre Elliott Trudeau, le père de notre premier ministre actuel, a déjà dit « Il n'y a pas de place pour l'État dans les chambres à coucher de la nation ». Pour défendre la communauté LGBTQIA+, et la Charte des droits. Eh bien, nous devrions adapter cet adage, car l'État n'a pas sa place dans nos cuisines non plus. Nous devons respecter les choix de chacun. C'était COP 15 et l'absurdité du régime planétaire. Un texte d'opinion du Dr Sylvain Charlebois, paru le 14 décembre 2022 dans La Tribune. Avertissement de larmes abondantes. Une chronique de Lise Ravary, parue le 27 décembre 2022 dans Le Droit. Quand j'étais petite, le soir du réveillon, maman me faisait toujours écouter cette vieille chanson française de Noël, « La Charlotte prie Notre-Dame ». Question de se rappeler que tous n'étaient pas choyés comme nous, que tous ne vivaient pas bien au chaud, en sécurité, aimés et en paix au cœur de l'hiver, sur la table des montagnes de délices préparées pour fêter la naissance d'un enfant pourtant né dans une étable. « Je suis là, Sainte Vierge !» à mon coin de rue, où, depuis l'apéro, je bats la semelle. Je suis qu'une ordure, qu'une fille perdue, c'est la Charlotte qu'on m'appelle, la Charlotte prie Notre-Dame. Je pleurais en entendant cet air des années 1920, même si je ne comprenais pas l'histoire de cette Charlotte mal embouchée, prostituée au grand cœur, qui gelait au coin de la rue la veille de Noël, mais j'entendais son appel à la Vierge Marie de venir la chercher pour la délivrer d'une vie de souffrance. On n'entend plus cet hymne au pathos aujourd'hui. Le goût du jour, c'est Maria Carey, mais les drames humains, les appels à l'aide n'ont pas cessé pour autant. Je connais personnellement un couple de cinquantenaires qui passent la nuit de Noël dans leur petite auto cabossée, comme toutes les autres nuits de cet hiver, parce qu'ils ne peuvent trouver à se loger à un prix décent. Ici, au Canada, en Ontario, dans la plus riche province du plus meilleur pays au monde. Un couple qui travaille, pas des fainéants, mais ils n'ont pas les moyens de verser le dépôt que les propriétaires exigent en toute légalité à leurs locataires, en plus du premier mois de loyer. Même dans leur petite ville, pourtant pauvre, difficile de se loger pour moins de 2 000 $ par mois. Pour emménager dans un 3,5, il leur faudrait donc environ 4 000 $. Deux salaires minimums ne font pas le compte. La misère peut frapper tout le monde, partout. Personne n'est à l'abri d'une crise financière, d'une catastrophe naturelle, d'un drame familial, d'un accident. Je pense à la petite réfugiée ukrainienne, Maria Legankovska, 7 ans, tuée par un chauffard à Montréal, ou de la maladie, ou même de la guerre. L'année 2022 se termine sur un conflit européen d'une inouïe cruauté, pour moi l'événement le plus important de l'année, et de loin. Nous en payons tous le prix, à la pompe ou dans l'assiette, depuis 300 jours, quand la Russie du monstre Poutine a envahi son voisin pour avaler ses frontières légitimes. Mais il y a plus. L'Ukraine, c'est nous. C'est l'Occident. C'est tous les peuples qui croient que seule la démocratie sied à la dignité humaine. La dictature avilie, défigure tout ce qu'elle touche. Lors de son passage éclair à Washington le 21 décembre 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rappelé que les États-Unis et tous les pays qui soutiennent l'Ukraine ne lui font pas la charité, mais investissent dans la liberté et la démocratie. Imaginons un instant que Vladimir Poutine gagne la guerre. Plus personne ne dormira tranquille, même une paix tronquée qui comprendrait la conquête partielle du territoire ukrainien par les Russes pourrait mener à d'autres invasions dans un avenir rapproché. Jusqu'où irait un Poutine victorieux pour réaliser son rêve de recréer l'Union soviétique? Verrait-on des chars russes avancer vers la Pologne, la République tchèque, la Hongrie comme en 1956, reprendre la guerre froide où l'avait laissé la chute du mur de Berlin, retourner en hiver nucléaire, redonner un drapeau à un empire russe tyrannique? Nous sommes trop interconnectés pour ne pas s'en soucier, a dit Zelensky. Il s'est versé des larmes dans mon salon pendant le discours longuement applaudi du président ukrainien devant le Congrès américain. Ce petit homme fier au destin improbable, porté par la justesse de son combat et la souffrance de son peuple, émeut. Certes, il est venu demander des armes dont l'Ukraine a besoin pour continuer à exister, car c'est de cela qu'il s'agit, et non pas pour dominer l'autre. Mais nous ferions la même chose. L'expression « le monde libre » reprend du service, mais il faut aller au-delà des mots et défendre, chérir et défendre cette liberté que nous tenons pour acquise. On se souhaite, ainsi qu'à tous les pauvres et tous les opprimés, paix, vie et liberté. C'était « Avertissement de larmes abondantes », une chronique de Lise Ravary, parue le 27 décembre 2022 dans Le Droit.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, André Lebeau et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.